Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Le festival Entrevue qui s'écoute aussi à la radio, c'est sur Fluxfort que ça se passe, sur notre plateau qui surplombe le vaste espace d'accueil du Kinépolis Belfort. Je suis toujours accompagné de la journaliste et critique Oikou Sofoglou. Et notre son est assuré et bichonné comme chaque soir par Olivier Legras. Nous allons maintenant parler d'un moyen-métrage documentaire sélectionné en compétition cette année. Ce film s'intitule Still Playing. Il nous fait entrer dans le quotidien d'un développeur de jeux vidéo palestinien qui, malgré la guerre qui sévit à Gaza et les incursions de l'armée israélienne dans la région de Naplouse en Cisjordanie où il vit avec sa famille, eh bien continue de créer des expériences vidéoludiques immersives qui cherchent à sensibiliser les personnes qui y jouent sur le sort qui attend les victimes civiles de conflits armés. Cet homme s'emploie aussi à offrir un semblant de normalité à ses fils, en participant notamment avec eux à des concours de robotique, manière de convoquer une forme d'évasion mentale et de créer un repère par le jeu au milieu d'une réalité déchirée par la guerre. Still Playing est l'œuvre d'un cinéaste français qui nous a rejoint sur le plateau de Fluxfort. Bonsoir Mohamed Mesbah. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et la belle surprise pour nous et pour les spectateurs du festival, c'est que le protagoniste de votre film, Rachid Abouedeh, est également ici à Belfort pour accompagner le film à vos côtés. Bonsoir Rachid.
Bonsoir.
Vos propos, Rachid, seront traduits ce soir par Rina Kenovic, que l'on remercie et qui assurera la traduction pendant que nous discutons. Alors au cinéma, tout l'enjeu d'une démarche documentaire un tant soit peu sérieuse, c'est de trouver un biais par lequel une réalité sera investie, regardée, explorée. Le biais dans le cas de votre film, Mohamed Mesbah, c'est donc Rachid. Comment l'avez-vous rencontré et pouvez-vous nous dire, nous éclairer sur les circonstances qui vous ont amené à vous intéresser à lui et à la situation qui est la sienne dans une zone de la planète qui cristallise évidemment au moment où on parle bien des tensions et bien des inquiétudes.
Pour répondre à cette question, en fait, c'est un chemin un peu particulier, un peu sinueux, mais enfin, mon intérêt et mon solidarité avec la Palestine, quelque chose qui était présent pour moi dès mon enfance. En fait, mes parents m'amenaient, c'était une lutte qui était très importante pour eux et ils m'amenaient à beaucoup d'événements en soutien à la Palestine, que ce soit des rencontres, des manifestations et tout. Donc c'est quelque chose qui était très présent en fait dans mon environnement assez jeune. Mais l'envie de faire ce film, elle n'est pas partie de là à la base. D'ailleurs, moi, je n'étais pas forcément sur la Palestine, mais plutôt dans la région en général, Liban, Syrie, Irak, Palestine. Et ce qui m'intéressait, c'était plutôt globalement la culture du jeu vidéo là-bas, notamment la culture des cybercafés où des jeunes, c'est un lieu de sociabilité important pour les jeunes, notamment dans les camps de réfugiés. Je m'intéressais aussi beaucoup à tous les jeux vidéo de guerre qui étaient produits, qui étaient des renversements, qui proposaient des renversements de perspective par rapport aux jeux de guerre américains où on pouvait jouer à un combattant arabe et s'affronter contre des armées occidentales. Et du coup, je m'intéressais beaucoup à cette culture-là. Et en faisant beaucoup de recherches là-dessus, j'ai eu envie de trouver des jeux qui me paraissaient peut-être moins superficiels et en tout cas dont l'expérience intime et vécue de la guerre de la personne qui crée le jeu vidéo en fait allait se retrouver dans le jeu et que ça allait créer quelque chose de forcément différent qu'un jeu de guerre classique. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le jeu de Rachid, Layla and the Shadows of War, qui en fait permet de jouer une famille de civils à Gaza le temps d'une nuit, qui est inspiré de la guerre à Gaza en 2014. Et je trouvais le jeu très beau, magnifique, et j'ai beaucoup très touchant, et surtout j'étais beaucoup touché par la conférence qu'il a donnée à San Francisco, à la GDC à San Francisco. Où notamment il parlait du trauma de ces images de guerre qu'il avait reçues lui en tant que père, de voir en fait tous ses enfants tués pendant la guerre, et que par geste à la fois de survie et intuition qu'il fallait faire quelque chose, il a voulu faire ce jeu pour éveiller les consciences. Et du coup, la manière dont il parlait aussi de tout le côté psychologique et de tout l'impact que ça peut avoir sur son intimité, je trouvais que c'était hyper fort. En tout cas, ça crée une histoire très forte. Et du coup, voilà, j'ai décidé de le contacter. Et en fait, il m'a accueilli en Palestine. On s'est vu assez une après-midi. Et ça a plutôt bien matché. Donc, à partir de là, le projet du film a vraiment émergé. Et voilà.
Peut-être une question pour Rachid. Vous avez rencontré donc Mohamed, qui est un créateur, un artiste. Vous aussi, vous en êtes un. On voit d'ailleurs vos jeux vidéo qui jouissent d'un pixel art magnifique et qui sont extrêmement émouvants pour les joueurs. Est-ce que justement ce biais artistique est quelque chose aussi qui vous a réuni ? Est-ce qu'au final, votre art n'est pas très proche de celui d'un cinéaste ?
I think the beginning when I met Mohamed and he told me about the idea of making the film, I wasn't sure.
Oui, alors je pense que au début, en réalité, la rencontre avec Mohamed a été très forte, mais je n'étais pas entièrement sûre que je voulais faire ce film. Je n'étais pas exactement sûre de ce qu'il voulait faire, de son idée. Je ne connaissais pas exactement l'esthétique des courts-métrages. Je ne comprenais pas exactement la structure narrative du film, mais surtout, je ne savais pas comment aussi on pourrait présenter cette expérience en lui donnant vraiment un sens et je ne savais pas si on serait capable de présenter au public quelque chose de nouveau, d'ouvrir des nouvelles perspectives, un nouveau point de vue sur la Palestine. Donc tout ça était très présent au moment de notre rencontre, mais c'est pendant ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'il y a eu tout de suite un climat de beaucoup de confiance entre moi et Mohamed. Il m'a parlé de ses motivations personnelles, de son intérêt, de sa solidarité aussi pour la cause palestinienne. Et cela a créé un environnement très fertile, en fait, pour développer nos idées ensemble avec beaucoup de confiance. Donc, à cet endroit-là, il y a eu tout de suite un lien. Alors, en ce qui me concerne, je suis effectivement un créateur de jeux vidéo. Donc, c'est un jeu créatif, artistique. Cela peut être bordélique parfois, puisqu'il faut essayer, tester des choses. Parfois, cela marche. Parfois, ça ne marche pas. Il nous faut aussi des retours des gens autour de nous pour voir si nos idées marchent ou pas. Et je pense qu'au cinéma, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on ne part pas de quelque chose de totalement écrit, spécialement avec des films tels que celui-ci. On ne part pas d'une structure qui suivrait de manière linéaire, très, très structurée, une narration déjà ancrée dans le marbre. Donc voilà, il faut savoir bouger avec ce qui se passe dans le réel, et je pense que la flexibilité de Mohamed a beaucoup aidé à ce niveau-là, puisqu'on a essayé de donner le plus de chances possible à juste laisser passer des choses, se laisser porter également. Et par exemple, la compétition de robotique que l'on voit dans le film n'était pas prévue au départ. De même, le fait que j'allais travailler sur un nouveau jeu n'était pas du tout prévu au départ, puisque au départ je devais juste montrer un petit peu ce film, enfin Lila et les Shadows of War, et j'attendais un peu des subventions pour mon nouveau jeu, mais je les avais pas eu. Donc tout ça, c'était dans l'incertitude, mais c'était finalement la relation de grande confiance qui nous a permis de travailler avec tout cela et faire ce film ensemble.
Mohamed, vous avez dit que vous voulez concentrer plus sur un territoire plus général que la Palestine, mais il me semble qu'avec tout ce qui se passe en Palestine et en Cisjordanie, et il y avait aussi une augmentation dans la production documentaire qui traite des conflits dans la région, et ça a aussi augmenté l'attention qu'on porte où on pense plus davantage à comment filmer ce territoire, comment interagir avec la personne, comment trouver la bonne distance. Je pense qu'il y avait plus d'attention et plus d'acuité sur ce questionnement. Et moi, je suis curieuse de savoir comment votre approche initiale a changé après avoir rencontré Rachid, et est-ce que vous avez eu des décisions créatives par rapport à votre manière de filmer, manière d'approcher, surtout en lien avec le forme documentaire.
Alors déjà, il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que le film, en fait, j'ai commencé à l'écrire, j'ai rencontré Rachid, et même toute l'écriture, la préparation de tournage, s'est faite bien avant le début de la guerre à Gaza en 2022, à une période relativement calme, si ce n'est que, par exemple, enfin moi je me rappelle que quand je suis allé le voir la première fois en 2022, juste après il y a eu un siège à Naplouse, et notamment c'est là où il y a eu notamment un groupe qui s'était reformé au sein de Naplouse qui s'appelait la Fosse aux Lions, et du coup il y avait pas mal de tensions là-dessus. Donc c'était déjà après ma venue, il y a eu un massacre à Jenin, 11 morts par exemple, qui sont morts dans un camp suite à un raid israélien. Donc il y avait déjà un regain de tension qui était assez important. Mais disons que la question de filmer la Palestine ou ce territoire-là, quand j'ai commencé le film, pour moi elle était secondaire, parce que en tout cas c'était pas hyper présent au début, ces questionnements-là. Évidemment, avec donc le premier report du film, parce que je devais partir le 10 octobre, et donc avec tous les événements qui ont suivi le 7 octobre et le génocide, ça a forcément impacté ma manière de repenser le film, parce que rien que par l'affect et l'impact que moi ça m'a laissé personnellement. Après, comme tu dis très justement, c'est la rencontre qui commande les choses aussi, quoi. Et en vrai, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose là sur lequel je me suis beaucoup pris la tête et beaucoup réfléchi. C'était toute la relation que j'allais avoir avec la personne que je filme, et comment prendre ça en charge dans la mise en scène. C'est-à-dire que ma proposition de base, elle était assez, on va dire, théorique, plastique. Et ensuite, je pense que naturellement, je me suis un peu dirigé vers là-dessus. Je pense notamment à des films documentaires, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Je pense aux films de Denis Guirbrandt, certains films de Chantal Akerman, par exemple, ou Marc Isaacs. J'aime beaucoup la manière dont, en fait, il y a une manière d'être présent derrière la caméra qui fait que l'écoute, elle est pas pareille. Je pense au début de l'autre côté de Chantal Akerman, quand elle pose la première question. C'est une grand-mère qui raconte la très longue histoire de la famille, et en fait la manière dont elle pose la question, on sent toute l'humanité, le regard qu'elle pose sur cette personne-là, ce qui fait que, en fait, rien que la question elle est posée, nous on est déjà très attentif à ce que la personne qui est filmée va dire. Dans les films de Denis Guirbrandt, il joue beaucoup en fait ce personnage caméra, à la fois en étant drôle, mais aussi des fois en étant dur. En fait, il joue vraiment de l'interaction, et du coup de l'artificialité du documentaire qui n'est pas là pour s'effacer, mais au contraire créer. Il prend totalement acte du fait que un documentariste qui intervient, ça change le réel. Et ça, moi, c'est une démarche qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, surtout, en fait, les choses, je pense, elles se sont jouées quand je suis arrivé pour faire le tournage. C'est que j'ai passé un mois avec Rachid sans tourner. Et après, ça vient plus de lui. C'est que dès que je suis arrivé, ben, en fait, il a vraiment eu souci de m'accueillir et de me faire rentrer aussi dans sa vie. Et du coup, c'est toutes les discussions qu'on a eues, toute l'amitié qui a commencé à germer, qui a donné un terrain propice pour le film.
Je voulais juste préciser, je pense, mon interprétation, c'était plus une tension bienveillante basée sur votre amitié qui accueille aussi bien vos différences, vos distances que vos personnalités, vos existences ont. Voilà.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Non, je voulais dire que c'était une bonne chose d'avoir cette intention présente dans l'image entre le filmeur et le filmé. Mm. Parce qu'on n'essaie pas d'effacer les distances et la différence. On accueille, totalement. On crée une tension ensemble avec l'amitié.
Je suis d'accord.
Et en même temps, parce qu'on parle vraiment de vos choix là, plastiques, de mise en scène en tant que cinéaste documentariste, parfois il y a l'écueil lorsqu'on filme sur un territoire qui est frappé par une tension, par la guerre par exemple, de tomber peut-être dans le panneau d'imprimer aussi au film une forme d'urgence, de vous voyez, une nervosité, une syncope qui pourrait... faire ressentir au spectateur éventuellement l'urgence dans laquelle se trouvent les personnages. Chez vous, non, pas du tout. Vous parlez de Chantal Akerman, qui est, on va dire que c'est pas du tout une cinéaste de l'hystérisation de l'image. Au contraire, c'est quelqu'un qui fait confiance au temps, qui fait confiance au cadre, qui développe un cinéma de la durée, un cinéma qui nous rend dans un état de contemplation tout de même. Et c'est ce qu'on retrouve chez vous. C'est-à-dire que vous filmez ce territoire et vous lui donnez une noblesse, et vous donnez une noblesse à ses protagonistes, à ses habitants, par votre regard, parce que vous le posez, vous l'ancrez, votre regard. C'est vraiment ça, un choix fort aussi, que vous avez, un parti pris fort, que vous vouliez dès le processus d'écriture, en suivant Rachid dans son quotidien.
En fait, à la base, je m'étais projeté dans un film beaucoup plus plastique que ça. Vraiment beaucoup plus plastique, avec une identité visuelle beaucoup plus marquée, notamment parce qu'il y avait la question du jeu vidéo et que pour moi, justement, il fallait que le réel soit un peu esthétisé d'une manière, mais c'est pas non plus des gros trucs, quoi. Mais j'avais une... Je m'en rappelle, les premières discussions qu'on avait avec le chef opérateur, Ibrahim, c'était, il me demandait c'est quoi le visual style du film. Du coup, on réfléchissait beaucoup là-dessus. Moi, j'avais des références en tête qui utilisaient beaucoup le cadre, la fixité. Je pense par exemple au film d'Hassan Ferrani qui m'ont beaucoup influencé là-dessus. Et en fait, le truc, c'est que quand on allait sur le tournage, on a tout fait péter parce que j'ai présenté ces références-là et moi, j'avais envie de me rapprocher. En fait, je suis allé à vraiment genre, OK, qu'est-ce que là j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Donc, c'est des trucs auxquels j'ai pensé avant, mais sur le moment du tournage, en fait, toute cette grammaire-là qu'on avait commencé un peu à réfléchir, finalement, elle s'est faite vraiment dans le flow, quoi. Même à un moment, des fois, le chef-op, il était en autonomie totale, notamment avec les scènes des robots, les enfants, parce que c'était tout en arabe. À un moment, ça commençait à devenir répétitif, donc il a essayé plusieurs choix de cadre. Après, c'est au montage que ça s'est fait, quoi. Mais c'est sûr que, de base, on avait un trépied. Donc, on était quand même dans l'idée d'un cadre fixe. Et par ailleurs, non, le choix que j'ai fait aussi, c'était que moi, j'aimais beaucoup la voiture. J'aime beaucoup ça parce que c'est à la fois, ça bouge. Et en même temps, le cadre, il est fixe. Et ça permet aussi d'intégrer des travelling de manière assez organique. Et du coup, ben, ça, c'est la réalité. Mais je trouvais ça, même si c'était un métier, je pense, qui faisait chier Rachid, qui l'emmerdait plus qu'autre chose, quoi. Mais le fait qu'il vende des noix, même très tard la nuit, je trouvais ça très beau, en fait, cinématographiquement. De pas juste avoir quelqu'un qui est devant son ordinateur, mais qu'il y ait quelqu'un qui est devant son ordinateur. Et aussi, la nuit, il est dans la pelouse. C'est une ville que je trouve très belle à filmer la nuit. Il y a plein de néons, il y a tout ce monde des commerçants. C'est une ville très commerçante. Et donc, le voir vendre ses noix un peu partout. Voilà, je trouvais qu'il y avait... En tout cas, je me suis beaucoup rattaché à ces...
Et même le paysage de Naplouse, hein, simplement, ouais. Ces montagnes que l'on voit et cadrées de manière assez magnifique dans une très belle lumière.
Une question pour vous deux. Concernant les vidéos de streaming jouées par des joueurs de jeux vidéo, est-ce que ça faisait déjà partie du projet quand vous avez rencontré et vous avez c'était une décision créative un peu commune, prise ensemble, ou c'est plus est-ce que Rachid connaissait déjà ces gens qui regardaient ces vidéos, ou c'était quelque chose que vous découvrez ensemble? Je suis curieuse comment ces images ont trouvé leur chemin dans le film.
En réalité, il y a beaucoup de vidéos de streamers YouTube qui font des retours sur Layla and the Shadows of War. Donc quand le jeu est sorti, j'ai essayé de tous les voir, mais c'était vraiment impossible. Et je pense que pour les trois qui sont choisis et qui figurent dans le film, la décision est venue de Mohamed. Et je trouve que c'est une décision très très belle, puisque elle montre, les vidéos montrent trois niveaux différents de lecture de personnes qui sont dans trois contextes différents, qui ont trois âges différents, qui ont trois perspectives différentes. Donc je trouve ça très beau de montrer ces trois réactions aux jeux vidéo. Et je pense qu'au moment de la sélection de ces vidéos, on a parlé d'un d'entre eux qui était très connu au moment que le jeu est sorti, mais sinon les deux autres, c'était Mohamed qui les a choisis.
Mais en fait, l'idée d'avoir en fait, à la base, c'était un streamer, c'est devenu trois au montage, mais l'idée du streamer, elle est venue assez vite, parce que déjà, après avoir joué le jeu, j'ai regardé les streamers, et surtout pour moi, il y a un truc lors du médium du jeu vidéo, la différence des médiums, c'est que un jeu vidéo, l'intérêt de l'expérience, c'est qu'on joue directement et c'est comme ça qu'on ressent les émotions. Alors qu'au cinéma, c'est par empathie, par projection, qu'en en fait, on ressent les choses. C'est parce qu'on voit un personnage ressentir des choses qu'on le ressent en miroir. Et du coup, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de l'ordre d'une expérience cinématographique du jeu vidéo, pour moi, il faut passer par un deuxième corps, le corps du joueur, le streamer, qui lui-même va faire son interprétation à la manière d'un comédien. Et que même un jeu vidéo, c'est des tonnes de films potentiellement, parce que tout dépend de la manière dont le streamer va interpréter le jeu vidéo. Et donc, à la base, j'avais déjà ça. Et pour moi, si les scènes de vie n'avaient pas forcément à suivre un ordre, il n'y avait pas forcément de récit à avoir en acte, le jeu vidéo allait permettre de scander la narration et de permettre une progression narrative. Et donc d'être immergé, de suivre le film sans forcément que les scènes réelles soient chargées de devoir prendre en charge un récit. Voilà.
Mais il y a aussi une dimension qui est en lien avec le concept de distance. Parce que ces joueurs, ces streamers, à une certaine distance par rapport au jeu même, parce qu'ils sont, il y a des codes de live streaming, même si ce sont des expériences en direct, je pense qu'il y a, une mise à distance par rapport à la performativité de leur propre réaction, si je sais pas si je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a dans leur réaction une mise à distance par rapport à leur propre expérience aussi, qui rejoint aussi l'expérience de Rachid, qui est presque dedans, dans les régions, qui fait l'expérience, mais qui aussi témoigne à travers les réseaux sociaux les expériences distancielles des autres par rapport à ce qu'il est vit en présent à ce moment même. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire.
Ouais, mais... Non, totalement. Bah, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec ces streamers, c'est que c'est pas des, en fait, c'est des petits streamers, quoi. En fait, c'est tous des créateurs de contenu, mais c'est pas des stars dans la création de contenu. Ils ont un nombre d'abonnés un peu limité. Et du coup, il y a souvent dans ce que je vois de ce qui sort des streamers, c'est des streamers stars qui maîtrisent totalement les codes de la performance du spectacle. Et moi, quand je vois ces streamers, je vois qu'ils essayent de créer quelque chose d'un peu divertissant, mais ils n'y arrivent pas totalement et il y a un peu de maladresse. En tout cas, surtout chez les deux les plus jeunes. Et du coup, moi, ça, je trouve ça hyper touchant en soi. Et je pense qu'en fait, l'idée de la distance, elle est venue beaucoup avec le streamer qui s'appelle Ash Lord, je crois, qui vient du Mexique, qui appelle les personnages Margaret ou Jeffrey, qui, je crois, à la fin de la vidéo, arrive même pas à prononcer Gaza, en fait. La vidéo date depuis longtemps, elle date depuis 2017. Et là, tout de suite, ça m'a créé quelque chose de voir quelqu'un qui est autant ignorant de ce qui se passe, en plus rétrospectivement avec ce qu'on connaît des choses, la distance que ça crée. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant, quoi. Hyper intéressant, en tout cas, intégré dans le film. Moi, j'avais beaucoup peur dans le montage que ça crée une sorte d'humour noir un peu gênant et que le spectateur, ça les sorte, ils disent mais on peut pas rire de ça, donc ça crée de la gêne. Et en fait, ce que je me rends compte, même en retour en projection test, c'est que pas du tout, ça crée plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que ça crée beaucoup d'émotions et aussi cette distance-là, elle rajoute peut-être un peu de pudeur ou en tout cas de ne pas surdramatiser ce qui se passe parce que ces images-là, naturellement, en fait, elles évoquent le contexte tragique du génocide actuel. Donc, voilà.
C'est vrai que votre montage, il incorpore tous ces régimes d'images. Il y a donc les images du jeu vidéo de Rachid, les images que vous tournez en tant que cinéaste, les images des streamers que vous récupérez sur YouTube. Et il y a aussi des images qui passent furtivement comme ça sur les écrans via les réseaux sociaux de massacres, forcément. Et donc, tout ça, ça me semble englobé dans une réflexion plus large que vous faites sur ce qu'il advient des images de la guerre. Et on peut dire qu'il y aurait d'un côté ces images justement qui tombent en souffrance en circulant comme ça à côté de contenus beaucoup plus légers. Et donc il y a encore une violence supplémentaire de montrer d'images qui montrent ces drames à côté de choses beaucoup plus futiles. Et puis à côté de ça, il y a des gens comme vous et comme Rachid qui proposent plutôt un rapport consolateur, ou en tout cas un rapport beaucoup plus profond à ce type d'image en les faisant entrer dans le cadre d'une démarche artistique, en fait. Donc, par rapport à cette réflexion sur les images, là, c'était vraiment quelque chose qui était au centre de votre réflexion.
En fait, elle est plus venue sur le terrain, je pense. C'est-à-dire, moi, je me méfie un peu de ce truc de régime d'image, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une marotte de cinéma contemporain. En tout cas, il y a beaucoup l'envie de... On va faire réfléchir sur les régimes d'image, puis souvent, t'as une voix off comme ça qui va réfléchir à ça et tout. Moi, c'est des choses qui m'intéressent moins, même si je consomme beaucoup d'images différentes et tout. Et j'aime bien centrer sur le récit ou quelque chose, en fait, que l'humain soit au centre, en fait, de la démarche, quoi. Mais en fait, le fait est que, en vivant avec Rachid, en allant là-bas, j'ai vu à quel point la consommation et l'usage de ces images faisait partie du quotidien et de la vie, en fait. C'est-à-dire que ce rapport de spectateur, notamment parce que c'est à Gaza, il est aussi très présent en Cisjordanie. Et il est présent tout le temps parce que la télé est allumée tout le temps. Al Jazeera tourne en chaîne, tourne en boucle pendant dans le village. Mais aussi, c'est un besoin de survie. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens là-bas suivent tout ce qui se passe sur des canaux Telegram. Il y a un canal Telegram dédié sur tel village, sur Naplouse. Et chaque fois qu'on se déplace, il faut aller sur le canal Telegram pour être sûr que l'armée n'est pas là, où il y a un raid. Et les images sont partagées instantanément. Donc à la fois, il y a un besoin nécessaire de survie. Et donc ça passe beaucoup par ces canaux Telegram et ces images-là. Et aussi, c'est impossible de ne pas regarder les images du génocide qui sont hyper présentes. Mais tout ça crée un rapport aux images des fois que interroge, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une forme de d'addiction, de pathologie, même de maladie de ces images là et que ça crée aussi une forme de trauma, quoi. Et donc moi j'ai vraiment vu ça, quoi. Et du coup, pour moi, c'était important de traiter de ce rapport aux images là et de voir comment, finalement, pour moi, ce que l'histoire que je me suis fait, en tout cas, c'est que aussi Rachid, en créant ce jeu vidéo, non seulement il essaye d'agir pour porter la cause, mais aussi c'est une manière de guérir du mal des images qu'il reçoit, quoi. Et ça, c'est aussi des discussions qu'on a eues avec Rachid sur l'usage de ces images. Peut-être qu'il pourra en parler.
So I think I don't see them as images. I see them as part of my life. It's like the daily life.
En réalité, je pense que pour moi, ce n'est pas des images. En fait, ce sont des parties de ma vie très concrètes, ma vie quotidienne. Donc, ce ne sont pas des images. J'en ai besoin pour survivre, pour aller. Ce sont des choses nécessaires pour survivre, pour aller à des endroits. Il faut voir ces images en réalité pour voir ce qui se passe autour et être informé dans la mesure où on est touché à tous les endroits, jusqu'aux endroits les plus basiques. On peut pas s'en échapper. Et pour moi, ce que j'y vois, c'est surtout la différence entre les personnes qui vivent là en Palestine, en Cisjordanie, à Gaza, et les personnes qui vivent en dehors. C'est-à-dire qu'en vivant en dehors, on peut éteindre nos téléphones et voilà, la vie reprend de manière, comme avant. Alors que pour nous, ce n'est pas possible. Ça devient des outils de survie et surtout de compréhension, puisque tout le temps il y a des choses qui se passent autour. Et donc il faut comprendre, il faut savoir ce qui se passe pour survivre. Et par exemple, moi-même, en ce moment-là, je suis ici, mais il y a 2 jours, j'étais à Naplouse, je me suis réveillée et l'armée israélienne était là, donc j'ai tout de suite dû appeler l'école pour voir si les enfants allaient bien, etc. Donc pour moi, c'est totalement différent et la différence se joue là.
Avant de conclure notre conversation, la nécessité de s'informer à travers les images crée une conséquence collatérale, surtout en lien avec la déshumanisation des Palestiniens. Et le plus impacté, sont les enfants. Surtout les enfants sont les victimes de cette surmédiatisation de leur corps, de leur douleur, de leur perte. Et surtout dans votre film, ce que je trouve très impressionnant, c'est de donner une nouvelle manière d'accueillir les enfants palestiniens ou les enfants en général dans un conflit et qui ne leur enferme pas dans une réalité toute totalement sombre et qui leur redonne un élan, un espoir à travers un espoir, mais en même temps, travailler avec les enfants dans un contexte documentaire, c'est quelque chose de très sensible. Donc, je suis curieuse de votre approche. Il me semble qu'il y avait des choix que vous avez faits au fur et à mesure pendant le tournage, pendant nos conceptions. Et peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez approché cette compétition de robots, qu'on voit beaucoup plus les enfants de Roshi et s'interagir entre eux.
Pour les enfants, il me semble que quand même c'est tellement le centre des jeux vidéo de Rachin que c'était impossible que ce soit pas au centre du film. C'est-à-dire que ça soit ces 2 jeux vidéo, c'est souvent l'histoire d'un parent qui n'arrive pas à protéger son enfant, et même dans la conférence, c'est la première chose dont il parle. Donc pour moi, c'est ce qu'apporte le film, en fait, c'est de voir justement quel rapport parental a la personne qui a créé ces jeux vidéo là. Donc c'était obligé de les mettre. La compétition de robots, c'était une proposition de Rachid qu'il avait aussi envie à cœur de montrer ça. Et c'est aussi une manière dont il partage quelque chose avec ses enfants, il les transmet. Et donc c'était une envie qu'il avait de montrer ça. Et puis à partir de là, c'est lui qui m'a ouvert cette porte-là. Par ailleurs, le chef opérateur Ibrahim était beaucoup au centre de ce dispositif, parce que lui, parlant, n'ayant pas la barrière de la langue, il interagissait plus facilement avec les enfants et était quand même pas mal en autonomie sur ces scènes, quoi. Voilà. Peut-être
Rachid, vous voulez ajouter quelque chose?
Adding the relationship with the kids was essential for the film.
Alors je pense qu'en effet, le fait d'inclure cette relation, la dimension de la relation aux enfants dans le film était essentiel à tout le projet, puisque finalement, c'est un peu l'histoire globale, à la fois l'histoire des jeux, l'histoire qui se passe à l'intérieur des jeux, et également l'histoire qui se passe en Palestine. Donc voilà, cela permettait de montrer aussi un autre point de vue en montrant le quotidien normal d'un père palestinien avec ses enfants. Et aussi en agitant d'autres niveaux, en montrant une réalité plus scientifique, robotique, avec ce concours. Cela permet d'aller à l'encontre de certains discours qui peuvent être tenus par la plupart des médias, qui essayent sans cesse de déshumaniser les personnes vivant en Palestine en prononçant des discours prétendent que en Palestine il n'y a pas de science, il n'y a pas de développement etc. Alors que c'est tout le contraire, et c'est ce qu'on voit en fait avec ces scènes-là, qu'il y a encore des choses qui se passent. Et aussi quelque chose d'autre qui est sans cesse dit dans les médias, dans la plupart des médias, c'est que en Palestine, ils utilisent les enfants en tant que boucliers, alors que, comme on le voit évidemment, c'est le contraire en fait de la réalité. Et on voit bien que dans les médias, il suffit de répéter des choses, des mensonges, pour que finalement cela devienne de vérité à force d'être répété sans cesse. Donc le fait de montrer justement l'opposé de ce que ces médias prétendent dans le film est essentiel, puisque cela permet de montrer la vraie vérité. Et cela rejoint également pour moi le message que moi-même j'essaye de faire passer avec mes jeux, les jeux que j'essaye de faire, qui est finalement celui de l'impact de tout cela sur les enfants. Donc à ce niveau-là, je trouve que le film est vraiment réussi, puisqu'il a vraiment réussi à montrer tous ces aspects-là.
Alors Fluxfor, entrevue, c'est terminé pour cette 40e édition du festival, un festival qui se poursuit encore ce soir et tout le week-end, et qui livrera ses vertiges et ses prix demain soir lors de la cérémonie de clôture. On espère vivement que Still Playing fera partie des récompensés, et pas seulement pour la thématique extrêmement importante qu'il porte, mais aussi pour ses qualités, ses grandes qualités de cinéma. On vous remercie beaucoup, Mohamed et Rachid, d'avoir participé à cette émission. Et je remercie également de tout cœur Oiku Sofoglu, qui m'a aidé toute cette semaine, avec qui j'ai partagé ces émissions et qui a pu nous apporter son talent et son énergie. Et je remercie également énormément Olivier, qui a mis en son fort belle manière tous ces podcasts. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de Fluxfor le player qu'a conçu Olivier, qui vous permet de réécouter 15 ans d'archives de Fluxfor à entrevue. C'est vraiment une sorte notre petit trésor national à nous, qu'on est très heureux de vous faire partager. Voilà, à l'année prochaine, et merci à vous et bon festival.
Merci beaucoup et Free Palestine.
Fluxfor.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.